Paul, prisonnier, est envoyé à Rome. Nous dirons en quelques mots ce qui arriva au grand apôtre Paul après qu'il eut fait ses adieux aux anciens de l'assemblée d'Éphèse. Cela termine la relation que l'Esprit de Dieu nous rapporte dans les Écritures et de l'histoire de l'assemblée sur la terre et de l'histoire de celui qui fut le principal instrument pour la fonder. Paul s'embarqua à Milet avec ses amis qui l'accompagnaient et, après quelques jours de navigation, aborda à la ville de Tyr, autrefois si fameuse par son commerce, ses richesses et sa puissance maritime, et dont il est déjà parlé dans le livre de Josué. Josué 19, verset 29.
Et la frontière tournait vers Rama et jusqu'à la ville forte de Tyr.
Il s'y trouvait une assemblée chrétienne, et Paul s'y arrêta 7 jours. Les disciples avertissaient Paul par l'esprit de ne pas aller à Jérusalem. Malgré cela, il continua sa route par mer et arriva à une ville nommée Ptolémaïs, où il resta 1 jour avec les frères qui y habitaient. De là, il poursuivit son voyage par terre jusqu'à Césarée. On se rappelle que c'est dans cette ville que le centurion Corneille fut converti par le ministère de l'apôtre Pierre et que fut établie la première assemblée tirée des nations. Nous ne savons pas si Corneille était encore à Césarée quand Paul y vint, mais l'apôtre y trouva un autre serviteur de Dieu dont nous avons parlé, c'est Philippe l'évangéliste. Quelle joie ce fut sans doute pour ces 2 ouvriers du Seigneur qui travaillaient et combattaient dans le même champ, de se rencontrer. Paul et ses compagnons allèrent demeurer dans cette maison chrétienne et y restèrent plusieurs jours. Le Seigneur donnait ainsi à son cher apôtre quelques moments de repos et de communion fraternelle avec les saints, avant les nouvelles luttes qui l'attendaient. Quel tendre soin le Seigneur prend des siens. Marc 6, verset 31.
Et il leur dit, « Venez à l'écart vous-même dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup de gens qui allaient et qui venaient, et ils n'avaient pas même le loisir de manger.
Tandis que Paul était à Césarée, un prophète nommé Agabus y vint, et, par l'Esprit Saint, annonça que les Juifs, à Jérusalem, s'empareraient de Paul et le livreraient aux nations. Entendant ces paroles, tous les disciples de Césarée et les compagnons de Paul se mirent à le supplier de ne pas aller à Jérusalem. Mais Paul leur dit, « Que faites-vous en pleurant et en brisant mon cœur? Car pour moi, je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. » C'était vrai. L'apôtre faisait volontiers le sacrifice de sa vie pour Christ. Mais ayant été averti 2 fois par l'Esprit Saint, devait-il courir au-devant de ce sort qui l'attendait? Il semble bien qu'avec tout son dévouement de cœur, Paul suivait en cela sa propre pensée. Nous apprenons ainsi comment les plus éminents serviteurs de Dieu peuvent manquer, et cela avec des motifs qui leur paraissaient légitimes. Mais le Seigneur ne laisse pas pour cela ceux dont le cœur est réellement tout à lui, quoi qu'ils puissent se tromper. Il veille sur eux et fait tourner à bien même leurs fautes. Paul partit donc et arriva à Jérusalem. Il n'y était pas depuis longtemps quand des Juifs d'Asie, venus sans doute comme lui pour la fête, l'ayant vu dans le temple, se jetèrent sur lui, ameutèrent le peuple contre lui, sous prétexte qu'il avait profané le saint lieu en y amenant des païens. Et il l'aurait mis en pièces si l'officier romain préposé pour maintenir l'ordre ne fût accouru avec des soldats et ne l'eût tiré de leurs mains. Mais en même temps, croyant avoir affaire à un malfaiteur, il donna l'ordre de le lier de 2 chaînes. Ainsi s'accomplit ce que l'Esprit Saint avait annoncé par le prophète Agabus. Paul fut conduit en prison. Après avoir vainement essayé de convaincre les Juifs de la vérité de sa mission, en leur racontant sa conversion. Quelques jours plus tard, pour le soustraire aux embûches des Juifs qui voulaient le tuer, l'officier romain, nommé Claude Lysias, l'envoya sous bonne escorte à Césarée, au gouverneur romain Félix. Voilà Paul entre les mains des nations. Que deviendra-t-il? Le Seigneur ne laisse jamais ses serviteurs. Avant que Paul fût conduit à Césarée, au moment où ses ennemis mortels complotaient contre lui, le Seigneur, durant la nuit, vint lui-même, se tint près de son disciple et lui dit « Et bon courage, car comme tu as rendu témoignage des choses qui me regardent à Jérusalem, ainsi il faut que tu rendes témoignage aussi à Rome. » Le Seigneur avait ses desseins. Il voulait, suivant ce qu'il avait dit lors de la conversion de Paul, que celui-ci portât son nom devant les gouverneurs et les rois, et c'est ce qui arriva. C'est comme prisonnier que l'apôtre va rendre témoignage devant les grands de la terre. Le gouverneur Félix avait épousé une femme juive, et sans doute par elle avait-il quelque connaissance de la voie, c'est ainsi qu'on désignait les disciples du Seigneur. Il voulut entendre Paul sur ce qui regarde la foi en Christ. Mais le serviteur de Dieu, qui avait à cœur le salut des âmes des pécheurs, ne voulait pas satisfaire une vaine curiosité. Il s'adressait à la conscience qui, une fois réveillée, conduit le pécheur à la voie du salut, si le pécheur lui-même ne l'endurcit pas. Il parla à l'orgueilleux gouverneur romain de la justice, de la tempérance et du jugement à venir, qui attend les injustes et ceux qui satisfont les convoitises de la chair. Qu'était Félix? Sans doute, comme le grand nombre de ses contemporains, injuste et corrompu. La parole sérieuse de l'apôtre l'atteignit. La pensée d'un jugement à venir l'effraya. Mais au lieu de s'écrier « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?», il renvoya Paul en lui disant « Pour le présent, va-t'en. Quand je trouverai un moment convenable, je te ferai appeler. » Ce moment vint-il jamais? Nous ne le voyons pas. Félix aimait l'argent et la faveur des hommes. En quittant son gouvernement, après 2 ans écoulés, il laissa Paul en prison pour plaire aux Juifs, preuve qu'il avait étouffé la voix de sa conscience. Il avait manqué volontairement le moment favorable, le jour du salut, et qu'est-il devenu? Dieu le sait. Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Tel est l'avertissement divin, nous invitant à ne pas remettre à demain de répondre à son appel. Le successeur de Félix, nommé Porcius Festus, voulait aussi plaire aux Juifs. Ceux-ci vinrent auprès de lui, accuser le prisonnier et réclamer son jugement. Festus proposa donc à Paul, sur leur demande, de le faire conduire à Jérusalem pour y être jugé. Mais Paul connaissait trop bien les dangers qu'il courait là, au milieu de ses ennemis acharnés. Pour y échapper, il en appela, comme citoyen romain, au tribunal suprême de César, l'empereur romain. Il fut donc résolu par Festus et son conseil qu'il serait envoyé à Rome. Le gouverneur était ainsi tiré d'un grand embarras. Mais avant le départ de Paul, il se trouva que le roi juif Agrippa, avec sa femme Bérénice, vint à Césarée pour saluer Festus. Celui-ci leur parla de son étrange prisonnier. Agrippa exprima le désir d'entendre aussi cet homme qui, tout faible et chétif d'apparence, était cependant bien connu par l'œuvre que Dieu lui avait donnée d'accomplir. « Demain, dit Festus au roi, tu l'entendras. » Et le lendemain, le roi et la reine étant venus en grande pompe avec Festus, les principaux officiers et les grands de la ville, le pauvre prisonnier juif lié de chaînes fut amené devant ce brillant auditoire. Quel contraste aux yeux des hommes! Mais de quel côté était la vraie grandeur? Du côté de Paul, si humble parut-il, car le Seigneur était avec lui. De l'autre, c'était le monde et sa vaine pompe avec son chef. Oui, rappelons-nous que la gloire du monde n'est rien, et que la vraie gloire, c'est d'être avec Dieu, fût-on le plus pauvre des hommes. Agrippa, ayant donné la parole à Paul, celui-ci raconta ce qu'il avait été dans sa jeunesse, la vision céleste qu'il avait eue, sa conversion et la mission qu'il avait reçue du Seigneur d'annoncer l'Évangile, afin d'ouvrir les yeux des pécheurs, pour qu'ils se tournent des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés et une part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en Jésus. Ne disant rien d'autre, ajoute Paul, que ce que les prophètes et Moïse ont annoncé devoir arriver, savoir qu'il fallait que le Christ fût soumis aux souffrances et que, le premier, par la résurrection des morts, il devait annoncer la lumière et au peuple et aux nations. L'incrédule païen Festus, entendant ces paroles de Paul, n'y voyait que folie. « Tu es hors de sens, Paul, s'écria-t-il. » Mais Paul répondit, « Je ne suis point hors de sens, très excellent Festus. Le roi a la connaissance de ces choses, et je parle hardiment devant lui, car je suis persuadé qu'il n'ignore rien de ces choses, car ceci n'a point été fait en secret. » Et se tournant vers le roi, il en appelle directement à lui et s'écrie, « Ô roi Agrippa, crois-tu au prophète ? Je sais que tu y crois. Quel pressant appel, quelle ferveur de cœur !» Aussi le roi se sent-il ébranlé. L'interpellation directe et ardente de Paul lui arrache cet aveu. « Tu me persuaderas bientôt d'être chrétien. » Hélas, c'est peu, ce n'est rien que d'être à peu près persuadé. C'était la preuve qu'Agrippa résistait et ne voulait pas céder à la puissance de la vérité. Où sont maintenant ces grands de la terre? Le pauvre prisonnier, lié de chaînes, avait un trésor et un bonheur qu'eux ne connaissaient pas, et il pouvait s'écrier devant eux, « Plût à Dieu que non seulement toi, mais aussi tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, vous devinssiez de toute manière tel que je suis, hormis ces liens. » Il n'enviait point leur sort, et il aurait voulu leur faire partager son bonheur, la connaissance de Christ, pour lequel il avait fait la perte de tout. Où est Paul le prisonnier? Avec Christ, attendant la résurrection de vie et de gloire. Où sont Festus l'incrédule et Agrippa le presque persuadé? Ah, qui peut le dire? Avec qui, ô lecteur, voulez-vous avoir votre part? Paul dut donc partir pour Rome, où il devait aussi rendre témoignage devant César. Il fut remis, avec d'autres prisonniers, sous la garde d'un centurion nommé Jules. De fidèles amis continuèrent d'accompagner l'apôtre. Dieu inclina aussi le cœur du centurion envers son serviteur. Il le traita avec égard et avec bonté. Mais la navigation fut longue et périlleuse, et se termina par un naufrage près de l'île de Malte. Le navire fut perdu, mais tous les hommes furent sauvés. Dieu les avait donnés à Paul, et c'est à cause de lui qu'ils furent épargnés. Durant les jours pénibles de la tempête, l'apôtre, toujours calme et paisible, parce que le Seigneur était avec lui, avait encouragé et soutenu l'équipage. Au milieu de tous les orages et les dangers, l'enfant de Dieu peut être tranquille. Que craindrait-il? Son Père veille sur lui. Est-ce votre cas? Quand l'huile éclaire que gronde le tonnerre, pouvez-vous dire « Dieu est notre refuge et notre force ». Un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. C'est pourquoi nous ne craindrons point. Psaume 46, verset 1 et 2. Les naufragés durent passer 3 mois dans l'île de Malte en attendant le départ d'un vaisseau qui allait à Rome. Les voyages ne se faisaient pas alors aussi rapidement que de nos jours. Mais ce temps ne fut pas perdu. Paul et ses amis avaient reçu l'hospitalité chez un des principaux de l'île, nommé Publius. Le père de ce Publius était gravement malade et souffrait beaucoup. Paul pria pour lui, lui imposa les mains et le guérit. Mais dès que le bruit de ce miracle se fut répandu, tous les malades de l'île vinrent, et Dieu, par le moyen de son serviteur, les guérit aussi. Et nous ne pouvons douter que l'apôtre, en accomplissant ses guérisons, n'annonçât aussi Jésus, au nom duquel il les faisait. Ainsi, le naufrage de Paul devint une bénédiction pour les Maltais. L'Évangile leur fut annoncé. C'est ainsi qu'un chrétien fidèle, partout où il va, dans quelque circonstance que ce soit, répand la bonne odeur de Christ, comme le disait l'apôtre de lui-même. 2 Corinthiens 2, versets 14 et 15.
Or, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ, et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu, car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu, à l'égard de ceux qui sont sauvés et à l'égard de ceux qui périssent.
Enfin, Paul et ses compagnons partirent pour Rome, la grande ville qui dominait sur les rois de la terre, la capitale du vaste empire romain, établi sur des peuples et des foules et des nations et des langues. Apocalypse chapitre 17, versets 18 et 15.
Et la femme que tu as vue est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Et il me dit, les eaux que tu as vues où la prostituée est assise sont des peuples et des foules et des nations et des langues.
Dieu y avait déjà fait porter l'évangile et une assemblée s'y était formée. Quels avaient été les instruments dont il se servit, nous l'ignorons. Mais dans sa lettre écrite aux Romains depuis Corinthe, assez longtemps auparavant, Paul mentionne un grand nombre de saints et parmi eux Aquila et Priscilla, chez lesquels se réunissait l'assemblée. Dans cette lettre, adressée à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, Paul leur disait, demandant toujours dans mes prières si, en quelque manière, il me sera accordé par la volonté de Dieu d'aller vers vous, car je désire ardemment de vous voir. Maintenant, son désir allait être accompli, mais autrement qu'il ne l'avait pensé quand il écrivait sa lettre. Alors il était libre, il pensait pousser bien loin ses travaux dans l'Évangile et leur disait « Je me rendrai en Espagne, je vous verrai à mon passage ». Au lieu de cela, il venait comme prisonnier dans les liens pour Christ. C'est ainsi que Dieu dirige les choses autrement que nous ne le pensons. Mais tout est pour sa gloire et notre bien. Paul avait dit aux chrétiens de Rome, « Je sais qu'en allant auprès de vous, j'irai dans la plénitude de la bénédiction de Christ. Et ce ne sont pas les liens ni la prison qui empêchent de jouir pleinement de la bénédiction de Christ et d'en faire jouir les autres. » Les chrétiens de Rome, avertis de l'arrivée de Paul et de ses compagnons, vinrent à leur rencontre assez loin de la ville. Beaucoup d'entre eux, la plupart sans doute, n'avaient jamais vu le cher serviteur de Dieu, mais ils savaient combien il avait travaillé et souffert pour Christ, et leur cœur lui était attaché. Qu'il est beau de voir des hommes qui ne se sont jamais vus se reconnaître, s'aimer et s'accueillir. C'est ce qui devrait toujours avoir lieu entre chrétiens, car ils sont de la même famille, enfants du même Dieu, ayant la même vie, la vie éternelle, unis au même Sauveur par le même Esprit. Les liens qui unissent les chrétiens sont des liens d'amour et s'expriment en tout temps, en tout lieu. À ceci, disait Jésus, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Jean 13, verset 35. Paul, voyant ses chers amis venus pour le recevoir, rendit grâces à Dieu et prit courage. Après tant de dangers, il était sain et sauf à Rome. Dans son constant amour pour sa nation, il fit venir auprès de lui les principaux des Juifs, afin de leur expliquer pourquoi il avait été forcé d'en appeler à César. « Mais, ajouta-t-il, je n'ai apporté aucune accusation contre ma nation. » Ensuite, les ayant convoqués un autre jour, il leur annonça l'Évangile, rendant témoignage du royaume de Dieu, cherchant à les persuader des choses concernant Jésus, et par la loi de Moïse, et par les prophètes. Les uns reçurent ses paroles, les autres ne crurent pas. Paul déclare à ceux-ci, « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux nations, et eux écouteront. Ces pauvres Juifs se privaient ainsi de la bénédiction. Prenons garde de ne pas faire comme eux. » Paul avait écrit dans sa lettre aux Romains, « Je suis tout prêt à vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. » Et c'est ce qu'il fit. Quoique prisonnier et devant comparaître devant César, il jouissait d'une certaine liberté. Il loua donc un logement où, durant 2 ans entiers, sans empêchement, il annonça le royaume de Dieu et ce qui concerne le Seigneur Jésus à tous ceux qui venaient vers lui. Ainsi, la parole de Dieu n'était pas liée, et le Seigneur accorda à son serviteur, étreint par son amour, la grâce de pouvoir, même prisonnier, presser des âmes de venir au Sauveur. Et certes, son travail ne fut pas vain. nous connaissons au moins un des fruits de sa prédication, l'esclave fugitif Onésime, qu'il a engendré dans les liens, qu'il appelle son enfant et qu'il renvoie à son maître Philémon. Colossiens 4, verset 9.
Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres.
Dans sa captivité aussi, l'apôtre, inspiré par l'Esprit-Saint, écrivit quelques-unes de ses épîtres si utiles en tout temps à l'assemblée. Telles sont l'épître aux Éphésiens, écrite sans doute de Césarée, et celle aux Philippiens, aux Colossiens et à Philémon, écrite de Rome. Qu'arriva-t-il ensuite? Nous l'ignorons. Nous savons que Paul fut mis à mort pour le nom de Jésus. Pour moi, écrivait-il plus tard à Timothée, lors de sa seconde captivité, je sers déjà de libation, et le temps de mon départ est arrivé. Quand et comment Paul mourut-il? La parole ne nous le dit pas. C'est avec la fin du livre des Actes que se termine ce que la parole de Dieu nous dit de l'histoire suivie de l'assemblée et de celui qui fut un si puissant instrument pour l'établir. Mais l'assemblée, l'Église ainsi établie, a continué sa course sur la terre. Son histoire est bien triste, car elle a été défigurée par les fautes des hommes. Sa beauté a disparu, elle n'est plus qu'une ruine. Toutefois, le Seigneur Jésus ne la laisse pas, et le temps vient où, dans le ciel, débarrassé de toute souillure, il la présentera glorieuse et l'unira à lui comme son épouse chérie.